en Ukraine aujourd'hui encore. Les évacuations de civils à Mariupol devraient se poursuivre. Hier, une centaine de personnes a pu être exfiltrées de l'usine Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne dans cette ville portuaire du sud. Le reste de la ville est passé sous contrôle russe. Moscou concentre son offensive dans l'est et le sud du pays. Même si l'armée grignote peu à peu du terrain, le Kremlin a dû revoir ses objectifs. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la Russie n'annoncerait pas la fin de la guerre le 9 mai. Date pourtant symbolique, c'est le jour de la victoire dans le pays qui célèbre la capitulation nazie en 1945. On en parle avec Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, le Kremlin change donc de discours puisqu'il espérait annoncer une victoire le 9 mai. Pourquoi ce changement? Peut-on estimer que l'armée russe prend du retard sur ses objectifs?
Vous l'avez rappelé, l'armée russe revoit sans doute à la baisse ses objectifs. Le président Vladimir Poutine se serait évidemment contenté, entre guillemets, le 9 mai, jour symbolique de la défaite donc des nazis par rapport à l'armée soviétique, justement d'évoquer la réussite d'une première partie de son plan, c'est-à-dire la dénazification. Et on aurait pu penser évidemment que si les opérations militaires s'étaient accélérées, il aurait pu le faire. Les plans sont sans doute revus à la baisse. L'offensive dans le Donbass n'a pas totalement commencé. On parle davantage d'un grignotage que d'un front de conquête territoriale conséquente. Une partie du Donbass échappe encore à la souveraineté, a quitté la souveraineté ukrainienne, mais n'a pas été totalement conquise par la Russie. Vous l'avez mentionné, Mariupol n'est pas encore tombée, aucune des grandes villes ukrainiennes également, et on peut sans doute penser que la montée en puissance quantitative, qualitative de la livraison des armements américains et occidentaux, évidemment, fait partie d'une nouvelle configuration, d'une nouvelle dynamique qui font que les forces armées ukrainiennes reconquièrent des territoires. Le président Zelensky l'a rappelé lors de sa conférence de presse désormais quotidienne. 69% des autorités des territoires ukrainiens sont désormais sous le plein contrôle des autorités administratives ukrainiennes, donc confirmant le fait que les forces armées ukrainiennes font mieux que résister. Elles reconquièrent des territoires qui avaient été conquis durant les 68 précédents jours de ce conflit.
Je parlais aussi des célébrations du 9 mai, jour de la victoire en Russie. À quoi vont-elles ressembler, ces célébrations? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de discret? Est-ce que le président Vladimir Poutine évoquera dans son allocution, s'il y en a une, la guerre en Ukraine ou l'opération spéciale, comme elle est qualifiée en Russie?
Alors, il n'est pas prévu spécifiquement de prise de parole. Néanmoins, le président russe pourrait proposer trois options. La première option, c'est d'évoquer le fait que cette opération militaire spéciale a abouti au résultat qu'il présentera comme celui initialement prévu, c'est-à-dire la conquête ou la reconquête d'une partie importante du Donbass qui n'avait pas pu être conquise en 2014. Donc c'est la première option, en disant que cette opération a permis de russifier des territoires où les populations attendaient ou espéraient la présence russe, en prenant en considération le fait que les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk avaient provoqué cette opération militaire spéciale deux jours avant le début du déclenchement de l'opération. La deuxième option, c'est de dire que les territoires qui ont été conquis par les forces armées russes autour de la Crimée, faisant la jonction entre le Donbass et la Crimée, appellent à un soutien plus massif de la Russie. On a depuis aujourd'hui quelques inquiétudes dans l'oblast de Kherson, cette ville qui a été conquise par les Russes, où désormais depuis le 1er mai, c'est le rouble qui devient la monnaie officielle, et l'on parle d'un référendum qui appellerait à une reconnaissance d'une nouvelle république séparatiste, voire même aboutissant à un rattachement de la Russie. C'est la troisième option. Il se peut que les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk qui avaient fait appel à la Russie puissent maintenant franchir un pas supplémentaire, c'est-à-dire demander leur rattachement à travers un référendum fantoche, comme ce fut le cas en Crimée. L'autre option finale, et elle n'est pas contradictoire, le président Vladimir Poutine, voyant que les opérations sont un peu temporisées en Ukraine et plus précisément dans la région du Donbass, pourrait appeler à une mobilisation générale, ne pas seulement se contenter des deux levées en masse qui adviennent chaque année, c'est-à-dire les 134 500 jeunes russes appelés sous les drapeaux chaque année, deux fois par an, mais appelés à une levée en masse. Et là, on parlerait plus de plusieurs millions de Russes qui potentiellement pourraient s'engager dans une guerre longue, mais avec
Et justement,
une
l'armée
défense.
russe, est-ce qu'elle est prête pour une guerre longue? On a vu son armée essuyer des revers, des pertes militaires, notamment dans ses hauts gradés. De son côté, l'Ukraine reçoit de l'aide étrangère. Donc, est-ce que l'armée russe
Ça
est prête pour cette guerre, pour ce type de guerre?
dépend de quelle guerre nous parlons. S'il s'agit de transformer cette opération militaire spéciale en une guerre, ce que nous disons être le cas déjà depuis l'invasion russe le 24 février dernier, la Russie aura besoin de plus d'hommes, d'où cette possible levée en masse donc des citoyens russes pour justifier le fait qu'il s'agit bien d'une guerre. Mais c'est un changement de narratif, un changement de rhétorique que pour l'instant le président Vladimir Poutine n'évoque jamais. Deuxième élément, vous avez raison de le rappeler, il y a une différence entre aujourd'hui et la semaine dernière. C'est que depuis maintenant une semaine ou 10 jours, les Américains ont significativement augmenté leur soutien à l'Ukraine. On parle désormais d'une aide globale de 33 milliards d'euros, dont 20 33 milliards de dollars, pardon, dont 20 milliards seraient consacrés à la défense. Je rappelle que les États-Unis consacrent déjà 3,7 milliards donc à l'armement ou à l'entraînement des forces ukrainiennes, ce qui correspond déjà à 80% du budget de la défense ukrainienne. Donc il y a vraiment une montée en puissance de la mobilisation américaine et britannique pour faire changer la nature de ce conflit. Il ne s'agit pas seulement de défaire et d'empêcher l'avancée russe, mais il s'agit de montrer que l'armée russe et la Russie en elle-même n'a pas les moyens de s'opposer aux États-Unis et singulièrement à l'OTAN.
Et très rapidement, Emmanuel Dupuy, dans ce contexte, est-ce que les négociations entre Russie et Ukraine pourraient prendre un nouveau tournant? Est-ce qu'il pourrait y avoir des avancées?
Oui et non. Oui, sans doute, parce que la médiation turque est à la manœuvre. Ibrahim Kalin, le conseiller spécial du président Erdogan, s'est entretenu avec Vladimir Poutine il y a quelques heures à ce sujet, en demandant l'accélération des corridors humanitaires. Vous en avez fait mention au début de votre journal. Mais non, dans le sens où, pour l'instant, il y a un facteur de blocage absolu. Premièrement, une difficulté à mettre autour de la table physiquement Volodymyr Zelensky et le président russe. Volodymyr Zelensky ne veut pas quitter Kiev. Le président russe, évidemment, ne pourra pas et ne voudra pas se rendre en territoire ukrainien. Et puis, autre élément, de quoi discute-t-on? Discute-t-on du statut de la Crimée ou du statut du Donbass, qui de toute façon sont au cœur d'une différence d'appréciation à 180 degrés. La Crimée et le Donbass font partie intégralement de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, alors que la Russie considère que le référendum de février 2014 fait de la Crimée une partie intégrante de la Russie et peut-être demain des deux républiques autoproclamées. Donc, en résumé, la difficulté de négocier vient du fait qu'on ne sait pas sur quoi négocier précisément.
Merci Emmanuel Dupuy d'avoir répondu à nos questions sur RFI. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.